Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hello, vous écoutez Salut ça va, le podcast qui veut briser les tabous autour de la santé mentale et vous donner des clés pour prendre soin de vous autrement.
Pour aller plus loin, on vous propose désormais un programme de coaching en ligne complet qui met en application des outils concrets et validés.
Rendez-vous sur takecare.co.
Bonne écoute.
Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien.
Et bonjour.
Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvés.
Ça fait longtemps.
Ouais, toutes les deux. Et là, on est toujours dans notre voiture, hein. Vous savez, les épisodes avancent, mais nos conditions de tournage n'ont pas changé.
J'ai envie de te dire, on termine comme on a commencé.
Ouais, c'est un peu ça. Et quelle nostalgie de se dire que c'est le dernier épisode de la saison 3 déjà. Ouais. Épisode final avant l'été. À l'heure où on enregistre, il fait gris. Mais on sait que quand vous l'écouterez, on espère, l'été pointera le bout de son nez. Ouais, on s'est dit que ce serait intéressant de faire une petite rétrospective de toutes ces années, de tous ces épisodes, de ce qui nous avait marqué, des invités qui avaient été les plus marquants aussi, tu vois, et dans un sens comme dans l'autre, à la fois parce que parfois ça résonne en nous, parfois on sait que c'est des épisodes qui ont beaucoup plu. Voilà, et puis vous annoncez la suite, mais ça, on laissera le suspense pour la fin de l'épisode. Je sais pas pour qui je me prends. Alors, mais première question.
J'allais te dire, à chaud là, comme ça, genre, c'est quoi les 2-3 épisodes qui t'ont le plus marqué, enfin, ceux que t'as adoré faire? J'ai déjà en tête.
Franchement, l'épisode avec Marion Séclin.
Ouais, j'allais dire pareil.
Ça a été un de mes épisodes préférés. Parce qu'il y a des phrases qui ont vraiment, vraiment résonné en moi longtemps et qui résonnent toujours. Vraiment. Et c'est marrant parce que dernièrement, j'ai eu un peu un truc quand j'ai été invitée à l'Assemblée nationale, justement, notamment par Marion, pour parler du cyberharcèlement et notamment des femmes, etc. Il y a eu un moment où l'épisode a résonné en moi parce que je me suis retrouvée dans cette salle avec plein de femmes hyper inspirantes qui étaient en colère et pleines de revendications et qui étaient hyper engagés dans leurs propos et tout. Et en écoutant ça, je me suis dit, mais en fait, je me rends compte qu'à cause de la peur de tout ça, du cyberharcèlement et de plein d'autres choses, j'avais vachement lissé notamment mon contenu. Et d'entendre ces femmes porter leurs valeurs et être en colère et crier leur ras-le-bol et de façon tout à fait légitime, je me suis dit, putain, mais en fait, si ces femmes-là m'inspirent à justement prendre le pouvoir, prendre la parole, assumer des propos qui, je sais, peuvent parfois être controversés et m'exposer à une certaine forme de harcèlement, etc., parce que c'est une réalité. En fait, il faut que je le fasse, non seulement parce que c'est important pour moi, mais aussi parce que ça peut peut-être donner l'envie à d'autres femmes d'ouvrir
leur
rôle.
Et puis, est-ce que foncièrement, tu serais moins harcelée si tu étais militante?
Enfin, non,
pas
que tu sois
pas
harcelée.
Est-ce que
oui, ça a été prouvé. Ouais, ouais. Il y a eu des études et tout, c'est un truc de fou.
Okay.
Que ce soit journaliste, femme politique, influenceuse, etc. À partir du moment où tu t'attaques à certains sujets, ça a été prouvé. Mm. Plus harcelée, je crois que c'est, les derniers chiffres, c'est 27% de risque en plus. Enfin, déjà, quand tu es une femme, c'est 27% de risque en plus.
Oui, et je comprends que ça te fasse peur et que tu aies besoin de t'en protéger. Hein.
Oui, enfin, et puis parce que je l'ai déjà expérimenté, tu vois, sur certains sujets, alors qu'il n'était pas le féminisme, mais quand on parle d'éducation, quand on expose certains choix familiales, un homme qui décide d'être père au foyer, etc. Bon, on en a déjà fait les frais. Mais tout ça pour dire que cet épisode, ouais, il a vachement résonné parce que même par rapport, tu vois, au choix dû au standard, genre l'épilation et
oui,
tout.
Oui, de ouf.
Tu vois,
c'est les mêmes choses qui m'ont percuté.
Tu l'aurais mis dans ta liste des épisodes qui...
Ça faisait partie des premiers, ouais, du premier avec celui de... J'ai adoré enregistrer avec Louise,
ouais.
My Better Self. Je me suis régalée. Enfin, c'est un épisode où j'aurais pu parler encore avec elle
pendant des heures.
Et comme j'aurais pu parler encore avec Marion pendant des heures, c'est vraiment les deux épisodes que j'ai adoré tourner,
ouais.
Où je me suis sentie, tu sais, inspirée, vraiment inspirée à la fin de ces épisodes-là, quoi, tu vois.
Ouais. Je me souviens que l'épisode qu'on a enregistré avec Libellule aussi, C'était ouais, il m'a touché cet épisode parce que c'est une figure, je trouve, hyper importante, même des nouveaux réseaux sociaux, tu vois, de TikTok, etc. Et de l'entendre différemment, c'était intéressant. Donc ouais, il y en a eu quand même des invités, franchement, qui portaient et fort leur
valeur. Un épisode où j'étais moins d'accord aussi, où ça m'a un peu poussé en mes retranchements, c'était avec Anthony Bourbon, où c'était plus parce que je sentais qu'on avait des contradictions de valeurs importantes, mais on a pu en discuter. Enfin, je trouve ça, tu vois, cool justement de pouvoir
Et l'épisode a été mené jusqu'au bout. Et au final, je trouvais ça intéressant aussi que parfois, chose qu'on faisait pas forcément au début, on invite des personnes qui soient pas toujours dans le même sens que nous. Parce que c'est ce qui ouvre, je trouve, aussi à la discussion, le côté argumentaire, etc. Et en fait, en l'entendant, Anthony Bourbon, notamment dans le podcast de Louise, plus tard, il y a certains de ses propos qui, je trouve, se sont adoucis, modulés, assouplis. Et j'ai pas la prétention de dire que c'est grâce à nos discussions, mais en tout cas c'est intéressant, je trouve, de suivre justement parfois certains.
Mais moi j'ai adoré, enfin c'était effectivement, tu le dis très bien, il y a eu les épisodes où on était avec Marion ou avec Louise, pour le coup on peut pas dire qu'on était pas d'accord, tu vois.
Non, c'est clair.
Au contraire, c'est pour ça que c'était aussi fort et inspirant, c'est que ça mettait parfois même des mots sur ce qu'on avait pu ressentir, etc. Anthony Bourbon, c'était autre chose, mais j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir se confronter, en fait.
Ouais, c'est challengeant quelque part.
Ouais. Et de pouvoir dire que, tu vois, de toute façon, c'est ce qui était cool dans ce podcast, hein, c'est que j'imagine qu'il y a des petites graines qui ont été plantées, tu vois, que ce soit de ce qu'on a pu dire nous ou des invités, mais c'est planter des petites graines. Et moi, je trouve que c'est aussi une façon de militer, tu vois.
Enfin, bien sûr, c'est une façon. Et tu vois, c'est ce que je disais.
C'est un engagement.
À l'Assemblée, je disais, le seul média où je me sens safe de dire vraiment ce que je pense et d'être à la vie comme au micro, c'est le podcast. En fait, y a, parce que la différence, c'est que tu n'as pas cette instantanéité du retour comparé à plein de plateformes où, clairement, tu vas poster un truc, tu peux avoir immédiatement une vague. Tu vois, de retours qui sont difficiles à gérer, etc. Le podcast, il y a un côté déjà très safe place. Et puis en plus, tu es obligé quand même d'écouter. C'est pas simplement genre tu vas avoir une story et tu y réponds de manière hyper virulente, tu as regardé 2 secondes de truc, tu cherches pas plus loin. Le podcast, c'est engageant dans tous les sens du terme.
Ouais, et puis tu peux vraiment développer ta pensée, quoi. Tu vois, tu n'as pas de contraintes déjà de censure.
Ouais, 15 secondes.
Voilà, de contraintes de temps et de contraintes de mots qu'il ne faudrait pas dire. Tu vois, je vois sur TikTok, sur Insta et tout. Je vois même nous, dès qu'on veut parler, tu vois, de prévention de suicide ou ce genre de choses, c'est compliqué parce que du coup, tu es censuré sur ce genre de mots parfois, alors que tu veux faire de la prévention en fait. Hein, tu ne fais pas un appel à.
C'est vrai.
Mais du coup, je trouve que le podcast permet aussi cette liberté-là d'expression en fait.
Oui, et de développement, ouais.
Ouais, et tu peux vraiment développer ta pensée, tu vois.
Oui, et puis la discussion est agréable à écouter. Enfin, moi, je sais que j'écoute autant des discussions que des podcasts en solo. Ça s'inclut dans ta vie, en fait.
Mais quand t'es pas seule, parce que du coup, pour avoir fait... parce que c'est vrai que du coup, on a fait des épisodes aussi solo. C'était plus compliqué pour moi, tu vois, de faire ces épisodes solo. Alors, l'exercice de m'écouter... parler, enfin on s'entend, je m'écoutais pas parler, mais de me parler à moi-même, mais j'étais pas vraiment seule puisque je savais que ça allait être de pas être dans une discussion, pour le coup c'est quelque chose avec lequel j'ai vraiment eu du mal. Je suis contente de l'avoir fait parce que
tu penses que tu vas être amenée à le refaire?
Je suis pas sûre.
Ouais,
je suis pas sûre d'avoir trop aimé tu vois faire ça seule. J'aime vraiment être dans un échange et je trouve que j'ai toujours plus de trucs à dire quand je suis dans un échange, parce que forcément, ça me fait penser à plein de trucs et je trouve ça hyper cool. Et je pense pas que les épisodes que j'ai fait seul étaient acheter la poubelle, on est bien d'accord.
Non, pas du tout.
Mais
c'était plus difficile.
Mais l'exercice était. Je peux pas dire que je l'ai pas aimé, tu vois, enfin, ce serait mentir. Mais je sais pas si je referais ça.
Ouais.
Je sais pas.
Non, je comprends. Moi, j'avais tendance au début, les épisodes solo, à grave les écrire vraiment, genre au mot près et tout, parce que. Le vide est hyper effrayant, je trouve, dans le sens la feuille blanche, quoi. Et beaucoup de personnes qui sont confrontées à des activités créatives, je veux dire que ce soit de l'écriture, de la vidéo, tu vois, de pas avoir l'idée, ça peut être hyper frustrant. Et au fur et à mesure, en fait, c'est un exercice qui est intéressant parce que, autant moi, j'avais pas de mal avec le truc solo, mais parce que aussi, j'ai toujours eu l'habitude d'être solo sur mes réseaux.
Oui, ce que j'allais dire, t'as l'habitude de.
Voilà. Mais même si le podcast, ça reste quand même challengeant parce que pour le coup, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de. Enfin, le montage reste quand même minime, tu vas pas mettre des effets, des écritures comme tu peux le faire sur une vidéo. Mais l'exercice de petit à petit moins écrire et faire confiance à ta capacité de développement, en fait. Et même si parfois c'est brouillon, et même si voilà, ça reste quand même. C'est challengeant.
Je vois. Mais je pense parce que aussi, Tu vois, j'ai essayé un peu les deux techniques, de décrire un peu, de pas écrire, de machin. Oh, franchement, je partais dans tous les sens des fois, c'était un enfer. Je sentais que ça manquait de cadre, quoi.
Mais parce qu'on digresse beaucoup quand on est seul aussi, tu vois. Ça t'emmène vers un truc. Et c'est, ouais, non, franchement, je comprends que ça peut être difficile. Mais en même temps, je trouve que l'évolution du podcast, elle a été à l'image de nous-mêmes, je trouve. Tu vois, quand t'écoutes les premiers épisodes et tout, c'était hyper scolaire. C'était très.
Puis moi, j'étais hyper stressée. Enfin,
appliquée.
Franchement, je m'en rappelle.
Bah, c'était tout nouveau pour le coup. Vous n'aviez même pas de réseaux sociaux
Ouais, non, on n'avait pas de réseaux sociaux.
T'étais encore en clinique en plus.
Je travaillais encore en clinique psychiatrique et puis. C'était complètement nouveau quoi. Enfin, c'était complètement nouveau et puis t'as toujours cette espèce de pensée dans ta tête qui te dit mais est-ce que vraiment tu penses que tu vas intéresser des gens ?
Mais qu'est-ce que je fous là ?
C'était vraiment ça. Qu'est-ce que je fous là ? En plus, genre vraiment, c'était. Enfin, on était dans un dressing, tu vois. Enfin, c'était les premiers épisodes, on les a tournés. J'étais à Carnot en Provence, sur Marseille.
Avec des draps étendus tout autour de nous pour éviter que ça résonne.
Avec le dressing que tu nous avais donné, je crois. Maison.
À savoir, on aurait dû faire ça dans une voiture. Hein. Je sais pas pourquoi on s'était. On ne savait pas à l'époque que c'était finalement.
On bricolait quoi.
On bricolait. Ouais, c'était ça.
On bricolait.
Mais tu vois, on bricolait sur la forme, mais sur le fond, je sais que ça a aidé beaucoup de personnes. Et surtout, il y a eu quand même des épisodes assez. J'allais pas dire controversé, mais tu vois, quand on a abordé notamment le HPI,
l'hypersensibilité aussi.
Ah voilà, l'hypersensibilité. La fille a banni le mot de son vocabulaire. Donc voilà, c'était déjà engagé d'une certaine façon.
Alors là, peut-être que je me trompe, mais je sais pas s'il y avait vraiment des podcasts qui abordaient à ce point des psychopathologies,
oui, de manière.
De façon aussi psycho-éduquée.
Bien sûr.
C'était vraiment important. Là, pour le coup, ça répondait aussi à des valeurs qui étaient chères. Enfin, c'était de parler santé mentale et de, en fait, qu'est-ce que.
Ouais. Oui, d'y apporter un fond sérieux sans se prendre au sérieux. Et ça, de toute façon, ça, pour le coup, ça a toujours été la mission de Take Care, je pense que. Et ce le sera toujours. C'est-à-dire que c'était sérieux sans se prendre au sérieux. Et c'est ce qui, à mon sens, a permis de toucher autant de personnes, c'est que ces sujets-là étaient encore soit réservés à l'intellectuel, enfin aux personnes intellectuelles, soit complètement récupérées par justement des personnes qui n'avaient pas cette rigueur.
Mais voilà, je sais que je pense que vraiment la première saison, elle a permis aussi à certaines personnes de passer le cap de voir quelqu'un.
Oui.
De se faire aider en fait.
Ah bah, bien sûr. Et je pense tu vois, moi j'avais beaucoup de retours de tes premiers patients parce que pour le coup, ils m'envoyaient des messages et c'était mon seul moyen de savoir parce qu'évidemment, tu me disais pas qui étaient tes patients, mais du coup, quand j'avais des petits messages de personnes qui me disaient, bah voilà, suite à ça, j'ai eu envie d'aller voir Mathilde. Là encore, quand j'ai dit que moi j'allais voir un psy, j'ai eu plein de messages de tes patientes en disant, moi j'ai terminé ma thérapie.
Sérieux ?
Ouais, tout trop chou. Et du coup, je me disais, mais c'est fou parce que cet écosystème-là, et le fait que ça a été complètement banalisé et juste c'est trop cool. Enfin, tu sais, c'est même pas présenté comme une activité, mais genre dans les messages, c'était en mode ah ouais, moi en tout cas, je suis en thérapie avec Mathilde, machin, ou ah bah moi j'ai terminé ma thérapie, ça s'est super bien passé. Je sais pas, il y avait un truc qui a été désacralisé, voilà. Et je me dis peut-être que ça a permis ça aussi, en fait, tu vois, de franchir ce pas.
C'était un loisir.
Ouais. Oui, venez me voir tous les mercredis. Non, mais tu vois que ça soit aussi.
Mais en même temps,
tu dis pas je suis allé voir mon dentiste.
Oui, mais parce qu'en même temps, toutes tes sens, quand tu vas voir ton psy, toutes les sens sont pas fun. Hein. Enfin, généralement, c'est parce que tu abordes quand même des trucs. Mais on rigole quand même.
Oui, voilà.
En thérapie, tu vois.
C'est ça, c'est sérieux sans se prendre en sérieux.
Ça peut être fun aussi.
Et je pense que ça a été important aussi pour nous et même pour vous, ce que vous faites, tu vois, en tant que psy-psy. En tant que psy-psy, de dire en fait, on n'est pas forcément un homme blanc, vieux, de 50 ans qui te regarde sur son canapé à travers ses lunettes comme ça, qui fait Et genre, la psychologiste n'est pas que ça.
Dites-moi en plus.
Dites-moi en plus. Vous pouvez développer ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Voilà.
Qui dessine un éléphant sur son carnet.
Ouais. Et toi, t'es allongée sur un divan un peu sale, un peu en velours côtelé.
Oh.
Tu vois, t'as la vieille boîte de mouchoirs. Franchement, j'imagine trop ça comme ça. Enfin voilà, donc, c'était l'idée de vouloir dépoussiérer un petit peu cette image.
Oui.
Et
mais c'est vrai qu'avec toi, il y a une grosse évolution, c'est clair. La saison 1 ne ressemble pas à la saison 3.
Ah, ça, c'est clair. Je vous invite, si vous avez la curiosité, à aller réécouter les premiers épisodes de la saison 1. Et moi, je me suis amusée à le faire la dernière fois. Et je me suis dit, mais on est trop mignonne. Enfin, c'était vraiment genre, bonjour. bonjour Mathilde. Bon, vraiment.
Mais j'étais voilà. Une petite note et tout.
Ouais, mais c'était.
Pas pour tous, après je me suis lâchée.
Oui,
wow, non, gros challenge.
Et le pire, c'était quand je disais, mais tiens, on pourrait aborder ça. Ah non, je saurais pas quoi dire. Et qu'après, on tapait des épisodes de 30 minutes. Et genre, j'étais là, tu vois, je me souviens, l'épisode de la performance, t'étais là, mais je ne sais pas quoi dire. Et c'était un des épisodes où après on est sorti, on était là, mais en fait. Ça s'est trop bien passé.
Ben ouais.
Tu vois, et comme
mais
quoi,
du coup, après, on a fait beaucoup d'épisodes en free.
En freestyle.
Comme aujourd'hui, d'ailleurs.
Oui, parce que je pense qu'il y a un enjeu moins... Enfin, pas moins important. On y met toujours autant d'importance, mais on s'est exposé au truc, on s'est habitué, on arrive mieux à gérer, tu vois, le stress de sortir un épisode et tout. D'ailleurs, franchement... moi, mon level de stress... Enfin, je veux dire, je peux même pas dire que c'est un truc qui me stresse aujourd'hui.
L'exposition.
Ouais. Mais est-ce que toi, par rapport à ton level de stress, est-ce que tu te sens stressée
quand on sort un épisode?
Ouais.
Bah non, plus autant qu'avant.
Plus autant qu'avant. Non, tu non. vois, donc là, c'est
mais,
vraiment ça.
Là, ça fait longtemps que j'en ai pas enregistré, donc peut-être.
Peut-être le seul solo, peut-être.
Mais ah ouais, ce seul, j'étais pas méga sereine.
Mais parce que c'était pas un truc que tu kiffais et tout. Et je pense que tu dis que t'as pas envie de le refaire parce que en fait, enfin, l'exposition n'aurait pas d'intérêt pour toi parce que c'est pas un truc dans lequel tu prends du plaisir.
Ben en fait, ben oui et non. Enfin, c'était un peu ambivalent. Tu vois, j'étais quand même fière de moi après coup. Les retours même qu'on j'ai pu avoir étaient cool. Tu vois, enfin, je veux dire, j'ai eu de la reconnaissance de ces épisodes-là par des gens qui ont pu m'écouter. Donc ça m'a nourri quand même quelque part. Mais c'est peut-être juste l'exercice en soi ou.
Ouais.
Je sais pas.
T'as pas forcément de sens.
Voilà. Enfin, tu vois, c'est pas quelque chose que forcément j'aurais hâte de refaire. Et en même temps, j'ai pas rien trouvé aussi en le faisant. Enfin, j'étais quand même contente de Moi, j'aime bien me challenger. Enfin, j'aime bien, tu vois, me oser des petites choses nouvelles. Mmh. Ça me plaît pas, j'en tire ce que je veux. Mais,
oui, bah, de toute façon, c'est aussi comme ça que t'apprends à te connaître. Et tu vois, je veux
dire. Non, tu as gagné en confiance.
Ouais.
Mais oui, de toute façon, enfin, ce podcast, il a changé plein de choses, tu vois. Enfin,
je pense que ça a
participé. Plein d'expériences quand même. Hein,
Ça a bien participé au changement de ta vie, entre guillemets. Parce que quand tu vois qui tu étais à la saison 1, dans le sens même professionnellement parlant, en clinique, pas ici, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, ça a suivi une évolution, enfin... T'as évolué avec, quoi. Alors, c'est peut-être le hasard de la vie, c'est pas le podcast qui a fait prendre des
décisions. Non, je pense qu'il y a plusieurs éléments qui ont fait que, de toute façon, ça a bougé et que, forcément, le podcast a suivi, tu vois, comme une ligne directrice. Mais oui, c'était, de toute façon, c'était une super expérience. Et puis, c'était quand même hyper intense. Franchement, quand on montait sur Paris et que, franchement...
Ça, les personnes ne le savent peut-être pas.
On montait des fois sur Paris, on prenait un train, il était...
5h.
5h du mat. En plus, je dors mieux aujourd'hui, on se rassure. Mais à l'époque, je dormais vraiment pas beaucoup avec mon petit baby. Et c'est vrai que, en fait, il y arrivait même une fois où pendant 24 heures, j'ai pas dormi, quoi. Là, tu te dis, mais je sais pas si tu puisses tes ressources.
C'est clair. Et puis, il faut quand même animer quand t'es dans un entretien, une interview et tout. Voilà. Et puis, les invités que vous avez entendus sur cette saison, on les a enregistrés en 2 jours, tous.
Ouais, c'est ça. Et puis, encore, là, cette saison, c'est différent. La saison dernière, il y avait que des invités. Ouais. Enfin, c'était...
Non, mais c'est pour ça qu'à un moment
c'était épuisant.
Donné,
Et puis, il y a eu des invités où, voilà, enfin, quand c'est... Tu vois, en fonction du thème que tu abordes, c'est différent quand c'est quelque chose d'hyper engageant, d'hyper militant. Ça puise pas la même énergie
Bien
que
sûr.
Quand c'est des histoires de vie qui sont parfois douloureuses ou difficiles, tu vois. Et en plus, encore moi, j'ai une formation pour qui fait que je sais gérer ça. Toi, je pense que c'était peut-être plus difficile à certains égards, peut-être.
Ouais, après, c'est vrai que à cause, j'allais dire, mais ou grâce, peut-être, aux réseaux sociaux et tout, j'ai tellement été confrontée à des personnes qui partagent une certaine forme. Alors, ça n'a rien à voir avec la thérapie. Hein. Attention, il faudrait pas qu'on croie que je sois psychologue parce qu'un mot de travers et tout le monde comprend mal les choses. Mais moi, je ne suis pas psychologue, je ne consulte pas, contrairement à ce que d'autres ont laissé entendre. Voilà, petit message subliminal. Mais bref, non, tout ça pour dire que ça n'a rien à voir avec la thérapie, mais que quand même, d'être confrontée en tout cas à des histoires difficiles, etc., et aujourd'hui beaucoup moins, mais à l'époque, les meet-up, les lettres qu'on recevait, j'ai eu des lettres de personnes qui m'ont confié des choses en me disant « je n'en ai jamais parlé à personne » et des trucs extrêmement, extrêmement durs. Des viols, des tentatives de suicide, de l'inceste. Donc bon, ça ne veut pas dire que ça rend les choses plus faciles, mais c'est vrai que, et je pense que ça c'est un truc que j'ai eu du mal à accepter à un certain moment, c'est pas d'être détaché, mais je pense que c'était une certaine forme de protection, d'arriver à juste dire
non,
ça me concerne pas, tu vois.
C'est quand tu sors de la compassion en fait, tu peux être dans la compassion, mais en fait la compassion c'est hyper drainant, alors que l'empathie...
Oui. Voilà.
C'est tout à fait envisageable et même c'est quand même bien d'être empathique.
Oui.
Hein.
Oui.
C'est pas mal. Mais ça te draine pas de la même façon parce que t'es pas en résonance forcément, tu vois.
Ouais. Oui, c'est ça, c'est d'arriver à dire, je comprends que ça doit être difficile pour toi, mais je ne peux pas me mettre à ta place.
Tu te mets à la place d'autres, mais tu vis pas forcément l'émotion, même si tu peux te toucher.
Pas l'intensité.
Et d'ailleurs, moi, ça m'est déjà arrivé de verser ma petite larme en thérapie, ça m'est déjà arrivé, parce que des fois, t'as des trucs qui te touchent, et c'est comme ça, t'es humain, enfin, je veux dire, faut pas... Et même dans les invités qu'on a reçus, enfin, franchement, oui, je pense notamment à l'épisode avec Camille, franchement, il était... il était touchant, enfin, tu vois.
Il était hyper touchant. Et puis, elle-même, en tant que femme et que maman qui a vécu l'impensable et le plus terrible, elle était d'une force, enfin, d'une résilience qui était à la fois hyper inspirante et hyper touchante. Puis nous, on est maman et toi, t'étais jeune maman.
Oui, puis en plus, ce qui était particulier, c'est...
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
C'est que son bébé avait le même prénom que le mien.
Ouais.
Et du coup, tu sais, ça faisait un truc un peu... Donc ça, par exemple, ça fait partie des épisodes qui m'ont marqué aussi, parce que émotionnellement, c'était très chargé. Après, en même temps, comment ne pas être, tu vois?
Oui, bien sûr. Et puis, notre but, c'est pas non plus d'être dans un truc où on ne doit pas montrer, tu vois, nos émotions. Non, on n'arrête pas de le dire, justement. Et on a envie, au contraire, d'encourager les gens à exprimer ce qu'ils ressentent. Et donc, il y a eu un moment... Après, c'est difficile, je trouve. Et ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément. Mais quand t'es face à une personne qui raconte son histoire, aussi terrible soit-elle, aussi douloureuse et émotionnellement chargée, etc., et que la personne en face de toi, elle, ne craque pas, entre guillemets, ne pleure pas, ne monte... Enfin... Tu sais, il y a un truc comme ça où, enfin moi en tout cas, c'est ce qui me venait à l'esprit, c'était en mode genre, si elle pleure pas, tu ne pleures pas. Genre, tu vois, pas, j'ai pas le droit, mais genre, alors qu'en réalité, tu réfléchis, il n'y a pas vraiment de raison. Tu peux, toi, être touché à un autre niveau. mais tu sais, de devoir garder un truc de. Une espèce de stature et tout. Et du coup, je me souviens que pendant cet épisode, j'avais mon cerveau qui était en. Je pensais à autre chose. J'essayais de me raccrocher à d'autres choses.
C'était difficile. Je te regardais et je sentais que c'était. Que t'étais particulièrement... t'étais dedans, t'étais vraiment dedans pour le coup.
Ouais. Oui, de ouf. Vraiment, et parce que aussi la particularité de cet épisode, c'est que c'était la deuxième fois que je recevais Camille sur ce podcast. Donc il y avait un attachement particulier à son histoire, parce qu'elle était venue raconter l'histoire de la maladie de son petit. Donc,
Et puis bon, dans tous les cas, voilà, ça restait l'épisode.
Ouais, non, ça a été un épisode hyper marquant pour
nous. Hyper marquant, c'est clair.
Pour nous, c'est clair.
Mais hyper inspirant aussi, parce que... Et puis hyper porteur d'espoir, quoi.
Clairement.
Moi, j'ai trouvé vraiment...
Ouais. Non, c'est vrai. Ça a été des... On vous mettra peut-être en information de ce podcast, les podcasts qui ont été les épisodes... si on devait conseiller à quelqu'un, tu vois, qui n'a jamais écouté le podcast, quels épisodes ont...
C'est dur, tu vois, comme c'est question. Dur. Parce que...
Si on parle des retours qu'on a eus, parce que du coup, j'ai demandé à Luna, qui travaillait avec nous, de me faire un peu un retour sur les épisodes qui ont eu beaucoup de retours. Alors, il y a tous ceux qu'on a déjà cités, du coup, on ne va pas les reciter. Mais il y a eu un épisode... les épisodes sur le couple. À la fois ceux qu'on a fait ensemble.
Ah, celui qu'on a fait avec Loïc ?
Ouais, avec Loïc, ce trio. Okay. Et celui que j'avais fait sur justement la communication dans le couple et tout, vraiment, il y a eu beaucoup de retours. Parce que je pense que c'est un sujet qui touche beaucoup de monde et peut-être qu'il y a peu de ressources, j'en sais rien, sur le sujet. Je sais pas, mais en tout cas, c'est des thématiques qui ont plu. Il y a eu l'épisode sur... ça, c'est un épisode qui est assez récent, mais enfin, au moment où on tourne ce podcast, sur celui que j'avais fait sur poser ses limites. Je pense que ça, c'est parce que c'est un sujet qui est beaucoup, beaucoup demandé. Je pense que vous devez avoir aussi beaucoup de messages en ce sens. Nous, on a beaucoup sur l'affirmation
sur les
limites, faire sujet numéro un. Et là, quand on a fait notre petit sondage sur Insta, tu voyais plein de trucs sur le fait de s'affirmer, de oser demander machin, enfin, et ouais, poser ses limites, très touchant, parce que j'ai reçu des messages de personnes qui m'ont dit j'ai expérimenté dans la vraie vie, c'est-à-dire il s'est passé ça pour moi, voilà ce que j'ai répondu, voilà ce que j'ai dit, pour la première fois j'ai osé, etc. Et ça, c'est incroyable, enfin le sentiment, en tout cas pour ma part, était incroyable, parce que je me suis dit ça va au-delà, ça résonne en toi d'une certaine façon, au point où tu arrives à le mettre en application dans ta vie, notamment je me souviens d'un message par rapport à justement un remplacement au travail qui a été refusé pour la première fois, je pense à des messages sur ce sujet, dans des relations familiales, sur des sujets qui n'osaient pas être abordés, enfin, et ça, je trouve c'est touchant d'avoir des retours, tu vois, ce sujet, au même titre que celui que tu avais fait seul, toi, sur ne pas aimer passer du temps seul. Il y avait eu plein de retours en ce sens, de personnes qui étaient vachement déculpabilisées par rapport au...
Il y a un vrai truc par rapport à ça, tu vois. J'ai encore une discussion avec une patiente hier sur ça et sur le fait où l'objectif, c'était moi, j'aimerais m'autosuffire, en fait. J'aimerais...
C'est pas possible.
Ouais. Je veux vraiment sortir de ce truc
d'autosuffisance.
On pourrait s'autosuffire, mais pas du tout. C'est normal d'être...
Mais carrément.
On confond souvent le besoin d'affection et le besoin de lien avec de la dépendance. Mais pas ça, la dépendance. C'est pas parce que t'as besoin de beaucoup d'affection et de lien que t'es dépendant.
Non, mais clairement.
Pas ça du tout.
Non, mais c'est important parce que tu vois, quand on dit même prendre du temps pour soi, etc., on a l'impression que prendre du temps pour soi, ça veut dire être seul et méditer dans la nature. Mais alors, prendre du temps pour soi, ça peut être aussi aller boire un verre avec une copine, ça peut aller à un concert, au contraire, entouré de plein de gens. Enfin, en fait, prendre du temps pour soi, c'est surtout faire des choses qui sont en lien avec ce que t'as envie d'être.
Etc., c'est clair.
Clairement. Et genre, là-dessus, il n'y a pas d'injonction et il n'y a pas d'échelle du mieux parce que c'est vrai que ça, tu vois, j'en parlais dans une des dernières vidéos. Un vlog notamment où je disais, moi le dimanche, c'est un moment qui est très important pour moi. J'aime bien prendre le temps de prendre une douche, de mettre mes crèmes et tout. Je dis, ça peut paraître complètement superficiel. C'est un moment qui est important pour moi parce que je le planifie pour moi et parce que je prends du plaisir à passer ce moment-là. Mais ça ne veut pas dire que c'est un moment que je considère essentiel parce qu'il faut que je sois seule avec moi-même ou que je me retrouve pas du tout. C'est parce que je kiffe faire ça à l'instant T. Mais tout autant que si je pouvais me planifier, j'en sais rien, comme on le faisait nous, une soirée entre potes, tu vois, toutes les semaines, c'est un moment qui est tout aussi enrichissant pour d'autres raisons. Et il n'y a pas d'échelle du mieux. C'est pas parce que tu vas méditer ou faire du yoga que c'est mieux que, tu vois.
Plein de choses, en fait. Il n'y a tellement pas de règles. C'est terrible. Enfin, on essaye de toujours...
C'est le bien et le mal, hein. Tu vois ce que je veux dire?
Et puis, tu sais, de mettre des curseurs partout. En fait, chacun a son propre curseur, tu vois. Enfin, moi, je pars vraiment de ce principe-là. Des gens me disent, moi, en fait, je fais ça, machin. Ça te fait souffrir ? Oui, non ? Si c'est non, on s'en fout. Ouais. Moi, je fais ça dans mon couple, moi, je fais ça dans ma vie. Ou, tu vois,
c'est consenti.
moi, je fais telle chose, en fait. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Mais en fait, en psychologie, il n'y a pas toujours une question de morale, en fait. La morale, elle rentre pas en jeu.
Mais ça, c'est culturel.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bien ou de mal. Il y a est-ce que tu es aligné avec ça ? Et est-ce que ça te fait du bien ? Ou est-ce que ça te fait du mal ? Est-ce que ça te fait souffrir ou pas ? Et quand ça ne te fait pas souffrir et que tu es OK avec, on s'en fout de savoir si
l'autre fait pareil.
Ta voisine, elle fait pas pareil, ou si t'as lu dans un psychologie mag que un couple c'était ça et que, enfin, tu vois. Et c'est pour ça que c'est hyper compliqué. C'est que...
Bien sûr. Mais parce que je pense qu'on est dans un truc où on est élevé vachement dans cette ambivalence entre ce que maintenant tu décides pour toi et en même temps ce qu'on a décidé pour toi pendant des années, à savoir aussi le poids de l'éducation et de la culture et de ce dans quoi t'as baigné. Et le truc du bien et du mal, c'est très judéo-chrétien. Hein. Quand tu regardes, il y a vachement cette notion-là. Hein. Et cette espèce de rigidité aussi de devoir catégoriser, tu vois, au même titre qu'il y a vachement de gens qui ont besoin d'étiquettes pour beaucoup de choses.
Mais même en psycho, là, enfin, les dernières données et tout, on commence à en sortir. Enfin, on part toujours des diagnostics pour, nous, en tant que cliniciens, voilà, ça nous aide d'avoir une espèce de cartographie des processus en jeu. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que aujourd'hui, on traite plus forcément les psychopathologies et les diags, on traite les processus concomitants entre plusieurs diagnostics ou dans la personnalité qui vont faire bref, je parle dans tout le sens là, mais ce que je veux dire, c'est que même cette approche un peu catégorielle qu'on peut retrouver en psycho, on est en train d'en sortir.
Ouais.
Parce qu'on se rend compte que, par exemple, quelqu'un qui souffrirait de dépression, elle réagirait pas du tout de la même façon, même s'il y a des processus qu'on retrouve, c'est pour ça qu'on arrive à déterminer que c'est une dépression, on est bien d'accord, mais en fait chaque individu est différent. Et en fait, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est tellement important de prendre l'individu dans tout, dans son contexte, dans son vécu, dans sa génétique, dans tout ce qui fait qui il est. Et bref, mais c'est passionnant.
C'est passionnant. Non, mais c'est vrai. Non, mais, et tu vois, c'est hyper rassurant, je trouve, parce que du coup, avec le côté étiquette et le côté... On a un sentiment parfois de condamnation. Et tu vois, c'est ce qui s'est développé de ouf, je trouve, avec les phénomènes d'autodiagnostic là sur les réseaux, de HPE, HPI, hypersensibilité, etc. C'est-à-dire que le gros problème avec tout ça, à mon sens, c'est qu'il y a un esprit, enfin dans la tête de beaucoup de personnes, c'est t'es condamné, c'est-à-dire tu es comme ça, tu es né comme ça.
C'est parce que en fait ça sert un business. Hein.
Oui.
Ça sert un business derrière d'experts en hypersensibilité. Déjà, je suis désolée, ça peut être très abrupt dit comme ça, mais sachez que le concept de HPE n'existe pas.
Ouais.
Scientifiquement, ça n'existe pas. C'est-à-dire que vraiment ça n'existe pas. Mais pareil, c'est un nouveau truc qui vient de sortir parce que voilà. Et en fait, de toute façon, c'est le problème en psycho, c'est que vu qu'il y a pas assez de cadre, en fait, tout et n'importe quoi peut être fait autour de ça. Mais je peux comprendre à un moment donné qu'avoir un mot sur ce que t'as et sur ce que tu vis, quelque part, alors il y en a que ça stresse encore plus, hein, mais il y en a que ça rassure oui. parce qu'ils comprennent. Ils comprennent pourquoi ils ont ça, etc.
Oui,
par
puis
contre...
t'as l'impression de ne pas être seul. Parce qu'il y a ce côté communautaire. Faut pas
tu vois
ce que je veux dire.
Mais qu'importe, tu vois, l'étiquette au final, même si on dit dépression, trouble anxieux, etc., il y a ce truc de ok, bah, j'ai ça, je peux me raccrocher à ce truc-là. Et en même temps, il faut quand même rappeler et bien rappeler que. En fait, on peut guérir d'une psychopathologie. Mm-hmm. Tout ce qui est les troubles anxieux, les TOC, la dépression, ça se guérit, en fait. Je veux dire, on peut ne pas passer sa vie avec ça. Et pour tout ce qui est des trucs un peu plus chroniques, genre troubles de l'humeur type bipolarité, les troubles de la personnalité, les schizophrénies, ce genre de trucs qui sont des pathologies qui sont plus chroniques, etc. Même si c'est chronique, en fait, on peut trouver un équilibre de vie avec une bonne thérapie, un bon traitement. En fait, c'est complètement possible. Je veux dire, même si c'est des difficultés, etc., mais en fait, il y a des gens qui souffrent de ce genre de choses et qui, quand même, arrivent dans leur vie à trouver le bonheur et à être bien.
Ouais, et je pense que, tu vois, t'as résumé beaucoup de choses qu'on a abordées ici et qu'on aborde. C'est, en fait, c'est déjà l'espoir. L'espoir de se dire qu'il y a des solutions qui existent. La possibilité de se dire, en fait, je suis légitime et ce que je ressens est suffisant pour être un motif de consultation. Si ça me fait souffrance, peu importe que j'estime qu'il est pire que moi, et ça on le rappellera jamais assez. C'est-à-dire, il n'y a pas d'échelle du pire, et on en parlait dans l'épisode avec une psychiatre là pour Care, où elle disait, mais en fait, et même si vous allez en consultation et que le professionnel de santé vous dit, il n'y a rien d'anormal dans ce que vous vivez, c'est ok, parce que vous auriez des inquiétudes sur certaines choses, etc., eh ben, vous avez une tranquillité d'esprit qui valait le coup quand même d'entamer ce processus. Donc ça fait partie des messages.
En fait, personne ne prend la place de personne, il y a de la place pour tout le monde. Alors après, le bon ingrédient, c'est trouver le bon psy, la bonne thérapie efficace, et avoir envie que ça change, avoir envie que ça bouge.
Non, mais je pense que voilà. En fait, c'était pour aussi conclure sur un peu les messages et les valeurs qu'on porte ici. C'est à la fois, parler de la santé mentale, ça a été, je pense, un combat qui ne sera pas fini, qui est qu'au début, mais parler de la santé mentale, rapporter un peu de sérieux dans les notions de développement personnel, etc., et ne pas rendre ça incompatible. Et puis, au-delà du développement personnel, quand on sent que c'est au-delà de ça, de simplement nous ce qu'on a pu créer sur Take Care, tu vois, avec le coaching, etc., qui est un soutien mais qui n'a rien de thérapeutique, ce n'est pas une thérapie, et ben d'encourager à franchir ce pas. Donc ces trois paliers là en fait, la fois, tu vois.
Et puis un truc aussi, c'est que, et sur ça je trouve que ça, par contre, vraiment ça me tenait à cœur et je trouve que ça a pu être possible avec Take Care, c'est le fait d'avoir su rapprocher la psychologie avec des valeurs profonde comme le féminisme, etc. Pour moi aujourd'hui, et vraiment pour le coup c'est un avis personnel mais que j'assume complètement, pour moi aujourd'hui tu peux pas être psy et ne pas être au courant des fonctionnements systémiques, en fait, de ce qui se passe avec le patriarcat, tout ça. Ça conditionne tellement de choses que
c'est une responsabilité quelque part.
Oui, je trouve que c'est hyper important d'être engagé, en fait, mais sans parler d'engagement et de militantisme, mais en tout cas d'être très au clair.
Je pense d'être au fait, d'être éduqué.
Parce que ça conditionne aussi, ça a un impact sur la santé mentale.
Mais bien sûr. Tu vois. Et qui sont les premières victimes ? Les femmes, comme toujours. Oui, c'est clair. Et toutes les études qui sortent en ce sens, et tu vois, on en parlait notamment avec CARE, parce qu'ils ont fait toute une étude avec IFSOS et tout, sur les freins de consultation. Et les freins à la consultation, et en fait, dans les freins à la consultation, notamment chez les femmes, ça va être la légitimité, ça va être... Et donc, tout ce qu'on retrouve de façon systémique, comme tu le dis, dans plein de pans de la société. C'est important, comme tu dis, d'être au clair et de diffuser ce message-là. Oh, c'est fou, mais on arrive sur la fin de cette saison. Alors, que va-t-il se passer pour la suite ? Parce que c'est un peu le moment, je pense, de vous parler de la suite. Ce podcast va continuer de façon différente, puisque j'ai l'honneur de vous parler d'un nouveau podcast qui sort, qui sortira ou qui sera sorti ?
A priori, peut-être septembre, ça serait bien.
Ah ouais, septembre.
À la rentrée.
Bon, parce que... Alors, Mathilde, explique-nous, qu'est-ce que tu nous concoctes ?
Tout n'est pas très clair encore, mais vous savez, je travaille avec Loïc, qui est psychologue aussi, qui est mon conjoint dans la vie, papa de mon bébé. Accessoirement, bref, on est très proches et on adore bosser ensemble. Et on a décidé aussi de lancer un podcast sur la santé mentale.
Ouais. Dans tous les cas, je vous mettrai les infos dans la barre d'informations parce que c'est encore en brainstorming créatif.
Mais ça doit sortir en septembre, mais voilà.
Donc, deux psychologues qui parlent entre eux et qui ne parlent pas que entre eux.
Ouais, pas que entre eux. Voilà. Mais puis quelque chose d'un peu engagé au niveau de la psycho, parce que on est très je sais pas si le mot colère, enfin si l'émotion est la bonne, je sais pas si on est en colère, mais en tout cas
ça devient
difficile pour nous de voir que il y a encore des choses qui sont plus adaptées en fait au niveau de la psycho et
quitte à se mettre tous les autres collègues ados.
Non, j'espère pas.
Faisons-le pour les bonnes raisons.
Vraiment pas, mais en tout cas bon, de toute façon, enfin voilà, ce qui nous guide, nous, c'est le bien-être de nos patients et c'est juste ça. Voilà, il y a pas d'école de pensée, il y a pas de pas rattaché à un dogme, quel que soit le dogme.
Vous avez envie, à travers le média du podcast, de pouvoir avoir aussi cette liberté de parole, comme tu disais, comme on l'a pas mal abordé,
oui, tout à
en
fait.
Complément de vos réseaux. Et puis, je pense que de vous investir dans ce projet, en tout cas, ça fait grave sens avec tout ce que vous avez envie de mener. Donc, c'est trop cool, take care.
Ouais. Puis voilà, il faut continuer de...
Le projet.
Ouais. Merci beaucoup. Mais ouais, il faut pour continuer de parler de santé mentale, peut-être d'une autre façon, forcément.
Forcément. Care, et puis, vous pourrez davantage, je pense, approfondir sur certaines psychopathologies qui n'avaient pas forcément lieu d'être dans Take Care parce qu'on restait, sur des sujets de. Peut-être de, j'allais dire de vie, mais ça, non pas que ça ne fasse pas partie de la vie, mais je veux dire, vous allez pouvoir aller en profondeur, je pense, sur certains sujets qui aurait été davantage compliqué d'aborder ici de façon
plus
scolaire, parce qu'il y a des données qui sont importantes, au même titre que quand on parle du médical, parce que ça fait partie, la santé mentale, tout ça. Donc je vous mettrai de toute façon toutes les infos en barre d'infos, puis sur les réseaux de Mathilde et Loïc, vous pourrez suivre l'avancée de ce projet. Et puis en ce qui concerne Take Care, écoutez, ça va continuer. Alors je ne vous promets pas un rythme hebdomadaire, on est en train de discuter avec l'équipe, je pense que dans tous les cas, ce sera une fois tous les 15 jours, mais à gérer solo plus tout le reste, je préfère ne pas me mettre d'objectifs trop hauts et d'être déçue par la suite. Donc voilà, dans tous les cas, tous les 15 jours, on se retrouvera peut-être parfois seul, peut-être parfois avec d'autres personnes et d'aborder aussi des sujets autour de l'entrepreneuriat. Beaucoup me l'ont demandé et je pense que le côté parcours de vie, etc., et que ça puisse être inspirant d'une certaine façon, je l'espère. En tout cas, on continuera à avancer dans ces projets-là et puis tout ce qui se fait aussi ailleurs, puisque Take Care est un bébé qui a déjà bien grandi. Et franchement, on en est nous-mêmes assez étonnés et il y a beaucoup de projets à venir. Je ne sais pas si ce sera le moment ou pas, et en fonction, ce sera coupé au montage. Donc si vous l'entendez, c'est que c'est le cas. Sinon, j'avais envie de sortir un nouveau programme, notamment sur le fait de lancer un projet. Et je pense que quoi de mieux que, que justement tous ces projets qui se créent pour en parler. Et je pense que, alors là, en termes de légitimité, je vous avoue que je me sens légitime parce que des projets, j'en ai lancé dans ma vie et que c'est un sujet qui revient beaucoup. Et j'avais envie de le tourner, je ne savais pas trop comment, au-delà de l'entrepreneuriat en fait, pas juste entreprendre un projet professionnel, simplement juste lancer un projet, que ce soit associatif, que ce soit une envie de changer de vie ou d'entamer quelque chose de nouveau, de créer un business ou pas du tout, créer un podcast, écrire un blog, enfin bref, les projets, on en a tous. Et j'ai eu la chance et l'occasion d'en faire quelques-uns, donc l'idée, ce serait de pouvoir aussi peut-être partager sur tout ça.
Quelques-uns, ouais.
Ouais, donc je me dis que c'est un dénominateur commun à beaucoup de choses, et en fait, ça m'est un peu venu grâce à vous, parce que j'ai beaucoup de messages qui me demandent des conseils par rapport à beaucoup de vos projets, parce que vous êtes hyper créatifs et super, moi j'encourage ça à 1000%. Et du coup, je me dis, mais il y a quand même des dénominateurs communs dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets. En fait, le processus est un peu toujours le même, et voilà, comme j'aime beaucoup accompagner les gens que j'aime autour de moi, lancer leur projet, je me dis, mais finalement, je vous aime aussi, donc j'ai envie de vous accompagner.
Bon,
donc
non,
voilà,
malin,
voilà pour les news. Et puis voilà, de toute façon, on vous mettra tout en barre d'infos, je vous mettrai les réseaux de Mathilde et Loïc, leur programme à eux aussi, qui sera sorti d'ici là sur la timidité, enfin bon, en tout cas plein de ressources qui, je l'espère, vous permettent de prendre soin de votre santé mentale autrement, parce que c'est la mission de Take Care. Voilà. On vous dit à bientôt. Enfin,
moi, je vous dis au revoir.
Ouais, au revoir, oui, mais à bientôt, parce qu'ils te retrouveront ailleurs.
Oui, ailleurs. Mais quand même.
Ouais.
C'est un au revoir. Mais quand même, c'est un au revoir. En tout cas, sur ce podcast. Et c'était cool.
Bah, merci
cool
beaucoup d'avoir cru en ce projet, même
mais
quand.
Merci, toi, d'avoir cru en moi aussi pour ce projet. Enfin,
bah ouais, mais c'était
cool.
C'était un sacré truc et on s'en est pas trop mal sortis, je trouve. Voilà. Aimons-nous et caressons-nous, lançons-nous des fleurs. Non, mais c'est vrai, il faut se dire quand les choses sont bien aussi.
En tout cas, au revoir.
Ah, c'est dur, hein, les au revoir.
Oui, ouais, c'est séparation, on n'aime pas les séparations.
Non, mais
on
ne va pas se séparer vraiment. Non, et bien écoutez, On espère que tout ça vous aura plu et aura résonné en vous d'une certaine façon, quels que soient les épisodes ou voilà. Et puis le meilleur est à venir, d'un côté comme de l'autre.
Mais bien sûr, je crois. Mais pour tout le monde.
Ouais.
Toujours la lumière au bout du tunnel, comme
exactement.
On dit.
Passez un bon été, prenez
bien soin de vous, ouais. Et à bientôt.
À bientôt.
Merci d'avoir écouté le podcast. Retrouvez-nous sur Instagram pour continuer à partager ensemble du contenu inspirant et éclairé, ou tout de suite via notre programme de coaching sur programme.takecare.co. À la semaine prochaine.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.